L'invité.
Cette année, pour sa semaine de prière, Phare FM s'associe à la thématique de la semaine universelle de prière proposée par l'Alliance évangélique européenne et le CNEF, en mettant l'accent sur les réfugiés. Objectif, mieux les connaître pour mieux prier pour eux. Pour ça, plusieurs invités cette semaine, Odile et Jean Lacour, ainsi que Nadette Caro, tous les trois de l'association JRS Welcome Lyon. Bonjour.
Bonjour.
En quelques mots, avant de commencer sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que vous pouvez déjà présenter un petit peu votre structure? Qu'est-ce que c'est, JRS Welcome Lyon?
Alors, JRS, c'est le service jésuite des réfugiés, qui est une ONG internationale, et nous, nous sommes une antenne de JRS France. Alors, JRS France a plusieurs pôles d'activité, entre autres Welcome, qui est le pôle hospitalité et qu'on développe sur Lyon.
Le principe, c'est de pouvoir accueillir, héberger des migrants dans des familles particulières, finalement, c'est ça?
On n'accueille pas de réfugiés, on accueille des demandeurs d'asile, c'est-à-dire qui veulent être réfugiés, mais pendant toute la procédure pour obtenir ce statut de réfugié. Nous n'accueillons que des personnes isolées, pas des familles, parce que ce n'est pas dans notre schéma.
Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire qu'on ne pratique pas l'hébergement, mais l'hospitalité, ce qui est quand même très différent. Ce n'est pas l'hôtel, on n'offre pas un toit, on propose une rencontre réciproque entre des familles qui acceptent de jouer le jeu de cette rencontre et des demandeurs d'asile qui, eux aussi, acceptent de rentrer dans cette démarche d'hospitalité.
Concrètement, comment ça se passe alors?
Ces personnes arrivent en France et doivent s'adresser aux organismes d'État pour faire leur demande d'asile. Et ils se sont enfuis de chez eux pour des raisons diverses et ont besoin de protection. La France doit leur assurer pendant tout le temps de la procédure d'examen de leur dossier, normalement un petit financement et l'hébergement. Et il n'y a pas assez de place, donc restent dehors les moins fragiles, qui sont restent fragiles parce que rester dehors, on devient très vite très fragile. Donc c'est cela pour lequel on ouvre nos portes, pendant tout le parcours de leur demande.
On les trouve par l'intermédiaire du Secours catholique, qui a un service qui s'appelle Sésame à Lyon et qui reçoit tous les migrants en accueil de jour, pour un café, pour des activités, pour des cours de français. Et ils les connaissent et sont capables de repérer ceux qui s'adapteront le mieux à notre système, dont on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire l'accueil dans des familles pendant un mois environ, de 3 à 6 semaines. Et au bout de 3 à 6 semaines, eh bien, le demandeur d'asile change de famille. On lui trouve une autre famille ou une communauté religieuse, et ainsi de suite, pendant une durée que nous, on limite à 9 mois. La durée est donc limitée. On peut peut-être plus tard expliquer les raisons, mais voilà le principe de notre activité.
Qui peut pratiquer cette hospitalité à Lyon?
Vraiment, qui en a envie et qui en a le désir, et il suffit simplement d'avoir une chambre, et pas le canapé du salon, mais une chambre avec une porte qui ferme à offrir et accepter de partager un peu de son quotidien. Nous demandons aux familles de fournir donc la chambre, l'accès aux sanitaires, ça va de soi, le petit déjeuner, et puis un ou deux repas par semaine pour faire connaissance.
Le but, j'allais dire presque, de cette hospitalité, c'est quoi? C'est d'autonomiser un petit peu ces demandeurs d'asile, de leur rendre un peu de dignité qu'ils ont pu perdre. Qu'est-ce que ça englobe finalement comme réalité?
Autonomes, ils le sont. Ils ont réussi à venir jusqu'ici, c'est déjà une preuve de combativité. Après, c'est préserver cette autonomie. C'est justement le fait de changer de famille, c'est ne pas s'installer définitivement et garder sa combativité. C'est aussi faire que les migrants ne soient plus des migrants, mais soient Ahmed, Marthe, Jamel, tout ce qu'on veut.
Ça fait 6 ans maintenant que JRS Welcome existe ici à Lyon. On a connu une grosse phase d'immigration ces dernières années. Plus d'un Français sur deux estime d'ailleurs qu'il y avait trop d'immigrés. Que voyez-vous, que voient ces familles qui pratiquent l'hospitalité dans la majorité de ces migrants? Pour que finalement ils puissent les accueillir, qu'est-ce que beaucoup de Français ne voient pas?
Les deux premières années, on a monté la chose avec les jésuites ici. Et dans notre réseau, on a réussi à recruter environ une 20aine de familles. Et pendant 2 ans, on est resté à peu près avec une 20aine de familles. Et donc on pouvait recevoir chaque année 3-4 migrants. Arrive l'épisode de la photo du petit Aylan sur la plage. Et là, à peu près à la même époque, un appel du pape à toutes les paroisses. Et là, on avait été carrément submergés par les demandes des personnes qui nous demandaient ce qu'il pouvait bien faire. Voilà. Donc à partir de là, à peu près réussi à passer ce cap, ce qui nous a amené vers les 70 familles qui sont actuellement dans le réseau.
Pour répondre à votre question tout à l'heure, moi je crois que ce qu'on propose avec cette hospitalité, c'est pour nous et c'est pour les familles et pour les tuteurs, puisque chaque demandeur d'asile a un tuteur du JRS, c'est de vivre une expérience heureuse et on a beaucoup de joie à le faire. Vraiment, on reçoit autant qu'on donne. Bon, c'est facile à dire, mais c'est tout à fait la réalité. C'est pas quelque chose, on fait une bonne œuvre et puis on a la conscience tranquille. Non, c'est d'un autre ordre.
Qu'est-ce qu'ils vous apportent, ces migrants, cette interculturalité-là? Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin?
Je crois que pour chacun, ce qu'on reçoit est différent. Ça dépend évidemment de chacun, mais moi, ce que je peux dire, c'est que moi, j'admire beaucoup de choses chez eux. J'admire leur force de vie énorme, leur courage incroyable, leur foi, qu'ils soient musulmans, chrétiens, bouddhistes, peu importe. Et leur foi, ça conforte aussi la mienne. Et leur courage ou leur force de vie, quand on a des petits coups de mou, on se dit, oui, coup de mou, mais voilà, ils sont là aussi, eux. Ou on a le coup de mou ensemble, ou c'est eux qui sont capables de nous réconforter. Ça nous apporte aussi une ouverture extraordinaire sur le monde. Une découverte de plein de cultures différentes qu'on n'imagine même pas, des façons de vivre et d'être qu'on n'imagine pas, mais au bout du compte, c'est un homme ou une femme que l'on rencontre et certains deviennent vraiment des amis.
Alors moi je voudrais ajouter aussi ce qu'on reçoit du côté des familles. On visite systématiquement chaque famille avant de lui confier un demandeur d'asile et là on découvre une variété extraordinaire de familles, de tous milieux sociaux. Des maisons, grandes maisons, luxueuses, et puis des petits appartements où une personne va laisser sa chambre pendant le temps de l'accueil pour que le migrant puisse être bien chez lui. On a des familles avec des enfants, on a des retraités, on a des veuves, on a toutes sortes de choses. Et pour nous, c'est extrêmement enrichissant de faire toutes ces rencontres. Et chaque fois, les personnes nous disent combien finalement, ça les déplace de recevoir quelqu'un d'une autre culture avec des choses, des fois, qu'ils n'attendent pas.
On a parlé donc de la chambre, du petit-déj. Voilà. Quels sont les besoins concrets aujourd'hui de ces migrants quand ils arrivent ici, à part être au chaud et de pouvoir se nourrir correctement? Quelles sont leurs attentes?
Être au chaud et être hébergé, c'est le premier besoin, ça c'est sûr et certain, mais ça va de soi. Je crois qu'on oublie parfois que ça ne suffit pas de donner un toit et à manger. Ils ont aussi des besoins culturels, ils ont des besoins spirituels. Certains ont besoin de retrouver leur dignité parce qu'elle a été vraiment très très malmenée. Et ils ont besoin aussi de s'apercevoir qu'ils peuvent compter et être en confiance avec d'autres personnes. C'est ce qu'on essaie de développer au JRS.
Quel profil peut-on essayer de voir se distingue peut-être de ces migrants qui arrivent d'un peu partout? Est-ce qu'il y a peut-être des nationalités qui prédominent sur les autres ces dernières années? Comment est-ce que ça a pu évoluer aussi du côté de ces migrants-là en 6 ans? Comment vous voyez un peu les choses?
C'est compliqué parce que nous n'avons que des personnes seules. Tous les Irakiens et Syriens qui ont pu arriver sont souvent arrivés en famille, donc ils ne sont pas chez nous. On a eu 2 Syriens, on a eu des Afghans, on a beaucoup d'Africains. Et beaucoup cette année particulièrement. Mais on a eu aussi l'Europe de l'Est.
Difficile de généraliser aussi parce qu'il y a près d'un millier ou peut-être plus de migrants seuls dans la rue, non hébergés. Et nous, on en reçoit 10, 12. Alors, on ne peut pas vraiment généraliser par rapport aux personnes que nous confie le Secours catholique.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je pense que par le jeu des pasteurs, plus du bouche à oreille, il y a des villes qui vont recevoir pendant quelques années plein d'Africains, comme Lyon en ce moment. Et puis après, ce sera une autre nationalité qui va arriver. À Paris, quand j'étais à Paris, c'était les Afghans. Voilà, ça ne dépend pas de nous. On ne peut pas développer des caractéristiques. Et en plus, ça me semble un petit peu dangereux de développer ça.
On peut dire quand même que ceux qu'on accueille sont plutôt jeunes, sauf les femmes. Les femmes, on en a eu jusqu'à 67 ans. C'est quand même impressionnant de voir que l'État n'a pas mis en foyer une femme de 67 ans. Elle n'a pas été considérée comme fragile, pas comme prioritaire. On en a 2 cette année qui ont 53 et 57 ans, ce n'est pas des gamines. Les hommes qu'on a sont de 18 à... on en a eu jusqu'à 50 ans, mais voilà, la plupart c'est entre 18 et 35.
J'avais envie de revenir sur les besoins spirituels dont parlait Nadette il y a un instant. Alors chaque année, on les emmène à Thésée. à l'invitation des frères de Thésée, qui par ailleurs reçoivent également des demandeurs d'asile. Et l'expérience pour nous est vraiment très riche et on constate que la plupart d'entre eux qui sont musulmans se retrouvent tout à fait bien dans la prière de Thésée. Voilà, donc ça c'est une chose. Mais il y a aussi les besoins spirituels des familles qui reçoivent et par ailleurs on essaie de proposer aux familles de relire cette expérience d'une manière un peu spirituelle.
Ça veut dire quoi alors? Comment est-ce qu'on peut relire cette expérience d'une manière un peu plus spirituelle?
On organise une journée qu'on prépare en permettant aux gens de regarder comment spirituellement ils ont vécu cette expérience. Et animé par un intervenant extérieur, qui l'année dernière a été un jésuite, par exemple, au Châtelard.
On parle beaucoup des migrants aujourd'hui, on parle beaucoup des préjugés aussi sur ces migrants. J'imagine que vous devez en voir, en entendre des préjugés régulièrement au quotidien. Quels sont les plus tenaces et surtout, comment les éviter, comment les casser, ces préjugés-là?
Uniquement par la rencontre. Quand on a rencontré quelqu'un, on ne parle plus du problème des migrants, on ne parle plus de pourquoi ils sont venus là, etc. Ils sont là, et c'est ouvrir sa porte et ouvrir son cœur. Et c'est ça qui fait tomber complètement les préjugés.
Quels sont-ils ces préjugés les plus entendus, les plus vus, les plus redits?
C'est la peur de l'étranger, la peur de celui qui est différent, qu'on ne connaît pas. On se fait des idées aussi sur ce que sont les migrants, qui sont... pas toujours, mais des gens qui arrivent avec des compétences, ça c'est une surprise. Bon, pour le moment, on a beaucoup, notamment chez les Africains, de personnes qui n'ont pas été vraiment scolarisées, mais ça n'empêche qu'ils ont des capacités, des qualités de cœur et de service. On a reçu des vœux là récemment de plusieurs d'entre eux. Voilà, c'est des choses quand même qui touchent.
J'imagine que c'est pas tout rose, notamment la barrière de la langue. Comment est-ce qu'on franchit cette barrière de la langue quand on accueille un migrant chez soi?
On a une majorité de francophones, donc on n'a pas trop ce problème. On essaie d'avoir des personnes ou qui parlent anglais ou qui se débrouillent un petit peu en anglais ou un tout petit peu en français. Et puis, il y a des cours de français dans tout Lyon. Et nous, au JRS, on propose plus des cours particuliers pour reprendre ce qu'ils ont appris pendant les cours. Et assez vite, quand ils sont en confiance, le français se développe. Parce qu'en famille, quand on fait cette expérience, par exemple, scolaire, d'aller à l'étranger pour demander le pain pour le petit déjeuner ou son ticket de métro pour les transports, on est bien obligé de se débrouiller.
C'est aussi le but, finalement, de leur apporter une compétence en plus?
Oui, mais bon, le plus compliqué qu'on ait eu, c'est un Iranien qui ne parlait pas anglais. C'est quand même assez rare de trouver des gens qui parlent iranien. Et puis, il fallait qu'ils... Et là, c'est un autre demandeur d'asile qui était afghan et qui parle la même langue qu'en Iran. Et donc, qui a fait l'interprète à chaque fois qu'on était coincé. Et ça a été vraiment, pour lui aussi, une découverte de voir qu'il pouvait servir encore pour ses, pas compatriotes, mais justement pour ceux qui sont dans la même situation que lui.
Cette hospitalité ne dure que quelques semaines, 3 à 6 semaines. Pourquoi avoir choisi un délai qui finalement, somme toute, assez court? 3 semaines, ça va vite. C'est quelque chose de volontaire de pouvoir faire quelque chose d'assez court comme ça?
Oui, c'est tout à fait volontaire. L'idée, c'est, tout à l'heure Odile l'a dit, c'est qu'ils ne perdent pas leur combativité. La deuxième chose, c'est qu'ils découvrent la culture française. Quand on est dans une seule famille, on découvre la culture de la famille. Mais là, en changeant tous les mois, pendant 9 mois, on se fait quand même une petite idée de la culture française. Troisième chose, c'est de se faire un réseau de relations, de connaissances et éventuellement d'amitié.
J'ai oublié, à mon avis, le facteur affectif. C'est dangereux, finalement, et pour les familles et pour le demandeur d'asile, de s'accrocher à une personne. Et ça crée des liens artificiels. Ils appellent très vite les gens papa-maman. Ça ne va pas, ce n'est pas l'objectif. Il faut qu'ils puissent être autonomes et être libres de leur vie en France après.
Oui, il y a aussi le fait pour les familles de savoir quand ça commence et quand ça se termine. Les gens n'ont pas une chambre libre comme ça pendant toute l'année. C'est donc très rassurant pour les familles d'avoir ce cadre-là.
Pourquoi 9 mois? Pourquoi avoir choisi ou pas d'ailleurs cette durée maximum de 9 mois?
Imaginez-vous changer tous les mois de chambre et de personnes autour de vous qui vous accueillent, c'est très fatigant. On était tenté par la durée de 1 an, nous l'avons expérimenté, et on s'est aperçu que finalement, les derniers mois étaient très très difficiles à vivre pour tout le monde, pour les familles qui accueillaient ces personnes en fin de parcours d'accueil, et pour les demandeurs d'asile eux-mêmes. Donc on a limité à 9 mois, ce qui nous paraît être la bonne dose.
Que deviennent-ils après ces 9 mois? Où est-ce qu'ils arrivent à trouver un toit?
On s'est aperçu aussi que quand on donne une durée comme ça, et ça c'est pas juste l'expérience de Lyon, c'est l'expérience à travers la France, quand on commence à leur dire le séjour chez nous va se terminer, tu es toujours le bienvenu dans toutes les activités, mais pour être accueilli en famille, ça va se terminer. Bizarrement, ils retrouvent beaucoup de force et d'énergie et ils trouvent une solution par eux-mêmes. Alors parfois, il y a certains pour qui on a une solution, mais la plupart du temps, c'est eux qui trouvent la solution. Et c'est bien le but de la chose, quoi. C'est pas de les assister tout au long de leur séjour en France et de leur vie en France quand ils ont le statut de réfugié. Après, il faut se débrouiller.
C'est mieux pour eux d'aller dans une famille que de trouver peut-être un foyer.
Vous trouvez un foyer, ils voudraient bien, mais il n'y en a pas. C'est pour ça qu'ils sont dehors. Et les squats et la rue, c'est usant et épuisant.
Ça, je peux vous dire que on nous les présente à notre permanence du mercredi quand ils viennent pour la première fois pour vérifier si ça va bien, on les rencontre. Beaucoup sont vraiment très abattus lorsqu'ils arrivent. Et ceux qui nous disent oui, on les revoit 2-3 semaines après et on les voit complètement changés. Voilà, ça donne une réponse à votre question, est-ce que c'est mieux ?
On va peut-être aborder quelques aspects pratiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous cherchez encore des familles ou pas ? Si oui, comment ça peut se passer pour les auditeurs qui pourraient être tentés par cette très belle expérience ?
Tout le monde est invité à venir nous rencontrer à la permanence 20 rue Salat tous les mercredis de 17h30 à 19h. Ensuite, soit nous contacter par téléphone ou par mail. Il y a toutes les informations sur le site de JRS France et nous avons une page Facebook, JRS Welcome Lyon, donc sur laquelle on peut demander des renseignements, nous rencontrer. Enfin bon, tout le monde est bienvenu et bien évidemment, nous cherchons encore des familles et des communautés religieuses.
Welcome aux demandeurs d'asile et welcome aux familles qui veulent bien les rencontrer.
Odile et Jean Lacour et Nadette Carreau, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes tous les trois membres de l'association JRS Welcome Lyon, qui pratique donc l'hospitalité pour les migrants. Si vous aussi vous êtes intéressé par l'association ou si vous aussi vous souhaitez accueillir des migrants chez vous, n'hésitez pas à contacter JRS Welcome Lyon sur Facebook ou alors à aller visiter le site de JRS France, www.jrsfrance.org. Merci.